France Musique.
On va pas mentir. C'est l'heure du journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Un conseil de défense ce matin, alors que la barre des 5000 patients dans les services de réanimation est désormais franchie et que les appels alarmants des médecins se multiplient. Au sommet de l'exécutif, trois hypothèses seraient à l'étude. On évoque notamment une fermeture des établissements scolaires ou un reconfinement un peu plus dur avec entre autres le retour des attestations en journée. Stéphane Robert.
À ce stade, les différents scénarii à l'étude restent territorialisés. Il ne serait pas question de prendre une seule et même décision pour l'ensemble du territoire national. Seraient concernés les 19 départements qui font déjà l'objet de restrictions renforcées, mais d'autres départements pourraient être ajoutés à cette liste. Le premier scénario est celui du statu quo. On ne change rien, mais on fait venir dans les zones les plus touchées des médecins réanimateurs des régions les moins exposées. Et puis on accélère le transfert des malades vers les départements où il y a encore de la place, en se passant de l'accord des familles. Dans ce scénario, les écoles resteraient ouvertes. Dans le deuxième scénario, les écoles des départements les plus touchés seraient fermées, le télétravail encouragé et les contrôles renforcés dans les entreprises. Et puis le troisième scénario prévoit un reconfinement généralisé comme l'an dernier, avec écoles fermées et attestations pour circuler en journée. La différence, évidemment, est que ce reconfinement resterait cantonné aux zones les plus touchées par l'épidémie. Tout ça sera discuté en Conseil de défense ce matin en tenant compte de tous les paramètres, indique l'Élysée, sanitaires, mais aussi économiques, sociaux et psychologiques. Et une prise de parole du président de la République est envisagée.
Emmanuel Macron, qui hier soir a échangé avec Angela Merkel et Vladimir Poutine, a rendez-vous en visioconférence pour évoquer notamment une possible coopération s'agissant du vaccin russe Sputnik V. Le Kremlin précise que les trois dirigeants ont parlé livraison et production commune de ce produit qui n'a pas encore obtenu pour le moment le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. En Italie, les révélations du quotidien Le Corriere della Sera poussent à la démission le responsable sicilien de la santé. Le journal, qui cite des écoutes téléphoniques, affirme que les chiffres de la pandémie ont été falsifiés dans cette région pour éviter des mesures de restriction trop fortes. Bruce de Galzin nous appelle de Rome.
Le principal syndicat du pays réclame un commissaire extraordinaire pour gérer la situation sanitaire en Sicile. Certains accusent même le président de la région d'être politiquement responsable de ce scandale qui retentit sur l'ensemble du système de santé sicilien. Ce sont les carabiniers qui, déjà l'année dernière, ont découvert qu'un laboratoire à l'ouest de Palerme falsifiait les tests, positifs en négatif, avant de les communiquer à la région. La justice décide alors de mener l'enquête. Grâce à des écoutes téléphoniques, des mails, les enquêteurs découvrent des conversations suspectes au sein même du conseil régional. Des responsables affirment qu'il faut répartir les morts sur plusieurs jours. D'autres n'ont pas déclaré le nombre total de cas positifs, toutes ces données qui sont ensuite envoyées à l'Institut supérieur de la santé à Rome, qui décide alors si les régions changent de couleur. La Sicile a sans doute évité la zone rouge à plusieurs reprises, donc, car ces falsifications se sont répétées au moins 40 fois, selon les enquêteurs. Dernière en date, le 19 mars dernier, la ville de Palerme a décidé de se porter partie civile.
Plus de 100 000 milliards d'euros pour diversifier l'économie de l'Arabie Saoudite. Ce programme d'investissement a été dévoilé hier par le prince héritier Mohamed Ben Salman. L'objectif est de mobiliser le secteur privé pour aider le pays à réduire sa dépendance au pétrole, la première de ses richesses. Et puis aux États-Unis, Joe Biden s'apprête lui à détailler un gigantesque plan en faveur d'une modernisation des infrastructures. Il s'agit notamment de rénover profondément les routes et les ponts tout en respectant l'environnement. Les États-Unis qui ordonnent par ailleurs à la plupart de leurs employés de quitter rapidement la Birmanie. Cela concerne les personnels dits non essentiels ainsi que leurs familles. Cette décision intervient quelques heures avant une réunion d'urgence à New York du Conseil de sécurité de l'ONU, un conseil au sein duquel le régime birman sait pouvoir compter sur deux alliés de poids, Bertrand Galichet.
Du côté de la Russie, à l'opposé des condamnations internationales, le soutien apporté à la junte birmane ne se dément pas depuis le coup d'État. Samedi dernier, le vice-ministre russe de la Défense a assisté à la célébration de la journée des forces armées birmanes, une fête conclue par un dîner de gala, alors qu'une centaine de manifestants avaient trouvé la mort ce jour-là. Cette proximité entre Moscou et l'armée birmane est ancienne, la Russie ayant vendu à la Birmanie depuis 2008 pour plus de 700 millions d'euros de matériel militaire, ce positionnant ainsi comme le second fournisseur d'armes à ce pays, derrière la Chine. Pékin, pour qui la Birmanie n'est pas seulement un client en matière de défense, c'est surtout un voisin avec 2000 km de frontières communes et un partenaire géopolitique. Le pouvoir birman a souvent eu besoin de l'appui diplomatique de la Chine au Conseil de sécurité. Mais Pékin affiche moins ouvertement son soutien à la junte pour ne pas alimenter le ressentiment anti-chinois dans un pays prometteur pour les investissements et offrant un débouché sur l'océan Indien.
Et on apprend ce matin que Voltalia va mettre un terme à ses activités en Birmanie. Le groupe pétrolier français a été pris pour cible la semaine dernière par des opposants qui l'accusent de complicité de crimes contre l'humanité. Encore une très belle journée avec beaucoup de soleil sur l'Hexagone et les températures toujours en hausse. Il fera cet après-midi de 16 à 29 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Allez en profiter, Olivier Denré. Rendez-vous demain, 7h. Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.